La voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, bonjour l'Afrique, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 23 avril 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, le Mujao a annoncé la mort de l'otage français Gilberto Rodriguez Leal.
Il avait été enlevé le 20 novembre 2012 par des hommes armés près de Kaï, dans l'ouest du Mali, alors qu'il circulait dans un camping-car venant de Mauritanie.
L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade est attendu aujourd'hui à Dakar. Nous nous pencherons aussi sur les salaires des présidents sur le continent.
Dans nos pays africains, on ne sait généralement pas le budget de la présidence et le salaire même du président dans beaucoup de cas n'est pas connu.
En Ukraine, la présidence a demandé aux forces de sécurité de reprendre les opérations antiterroristes. Ici aux États-Unis, réflexion sur l'avenir des programmes dits d'action positive ou de discrimination positive dans les universités. Sans oublier nos pages sport et musique, mais avant, le journal.
Le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, le Mujao, a annoncé hier la mort de l'otage français Gilberto Rodriguez Leal. Il avait été enlevé en 2012 dans l'ouest du Mali. La France a fermement condamné cet acte. Le point avec Nicolas Pineau.
Yoro Abdoul Salam, un responsable du Mujao, a annoncé la mort de Rodriguez Leal sans préciser la date ni les circonstances de cette mort. La semaine dernière, un autre responsable du Mujao avait annoncé la fin de vie de Rodriguez Leal, âgé de 62 ans. Il avait été enlevé le 20 novembre 2012 par des hommes armés près de Kaï, dans l'ouest du Mali, alors qu'il circulait dans un camping-car venant de Mauritanie. Son enlèvement avait été revendiqué deux jours plus tard par le Mujao, un groupe lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui contrôlait le nord du Mali à l'époque. La France condamne l'action du groupe terroriste, d'après Romain Nadal, porte-parole du Quai d'Orsay. Dans un communiqué, l'Élysée renouvelle sa solidarité avec la famille du disparu en laissant entendre qu'il y a lieu de penser que l'otage est décédé depuis plusieurs semaines du fait des conditions de sa détention. Paris promet de tout faire pour connaître la vérité et ne laissera pas ce dernier forfait impuni.
Drame en République démocratique du Congo, dans le Katanga, un train de marchandises de la Société nationale des chemins de fer du Congo a déraillé hier. Plusieurs dizaines de personnes sont mortes, en majorité des passagers qui étaient illégalement à bord. L'accident s'est produit à 65 km de Kamina, une zone marécageuse, difficilement accessible aux secouristes. Mathis Numbi est journaliste à Radio RCK, radio partenaire de la Voix de l'Amérique.
Le déraillement s'est effectué entre les tronçons Kasao vers Katongola. Donc c'est à peu près de 15 km de Katongola. Mais j'ai été sur place et après le déraillement, il y a eu déraillement. Donc il y a la loco qui s'est embourbée. La loco est dans le marin, même la cabouse. Il y a 12 wagons couchés, il y a 4 sur le rail. Ce que moi j'ai vu à mes propres yeux, c'était 31 morts. Et puis 55 blessés, ce que moi j'ai constaté. Quand on a demandé les gens qui étaient sur place, les passagers, ils disent que après ce qu'on sait, que c'est l'excès de vitesse.
L'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, est attendu aujourd'hui à Dakar. Il avait quitté son pays après sa défaite électorale en 2012. La veille de son retour, le président Macky Sall a donné une conférence de presse, mais n'a pas voulu en parler. Notre correspondante à Dakar, Jenaba Seydouba.
La venue de l'ancien président sénégalais suscite une polémique dans la capitale sénégalaise. Abdoulaye Wade n'a pas mis les pieds au Sénégal depuis mars 2012. Cette venue du président Wade sonne la mobilisation au sein de son parti, le PDS, qui entend accueillir son secrétaire général. Abdoulaye Wade se veut clair. Il est à Dakar pour faire face à son ancien poulain Macky Sall, qui selon Wade n'a pas de véritable opposant. Maître Wade fait ce déplacement pour soutenir son fils qui est en prison depuis plus d'un an. Karim Wade est poursuivi pour enrichissement illicite portant sur plus de 300 milliards de francs CFA. Abdoulaye Wade arrive à 14h. Il va ensuite présider un méga-meeting au boulevard Centenaire. Du côté du pouvoir, pas beaucoup de déclarations sur la venue de Wade. D'ailleurs, en conférence de presse sur le reboisement, Macky Sall n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes sur ses déclarations de guerre politique lancées par son ex-mentor. Macky Sall a déclaré déclaré, je cite, « Je ne vais pas y répondre. Toute chose à son temps. » Fin de citation. Diana Basseidouba, Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
En Somalie, un député a été abattu hier, le deuxième en moins de 48 heures. Al-Shabaab n'a pas tardé à revendiquer l'assassinat d'Abdi Aziz Issak Mursal. Les insurgés islamistes affirment avoir tué le parlementaire par balle dans une embuscade à Mogadiscio. Information confirmée par les autorités qui ajoutent que le politicien somalien est mort sur le coup.
Soudan du Sud, les rebelles nient le meurtre de centaines de personnes la semaine dernière à Bentiu. Des accusations qui avaient été formulées par l'ONU. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud affirme que le SPLA a tué plus de 200 civils et en a blessé plus de 400 autres dans une mosquée où des familles s'étaient réfugiées.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise ukrainienne, la présidence a demandé aux forces de sécurité de reprendre les opérations antiterroristes dans l'est du pays. Darina Naïdou nous en dit plus.
La décision prise après que deux personnes, dont un politicien local, ont été retrouvées mortes avec des signes de torture. L'ordonnance du président intérimaire Oleksandr Turkinov a été rendue hier suite à la visite du vice-président américain Joe Biden. Il a appelé Moscou à honorer sa promesse de retirer son soutien aux séparatistes pro-russes armés. L'ordre de mobilisation a également été lancé alors qu'il a été fait état de tir contre un avion des forces ukrainiennes près de Sloviansk. La semaine dernière, Kiev a essayé en vain de déloger les séparatistes occupant des bâtiments publics dans l'est du pays, région à majorité russophone. Depuis cet échec, les forces ukrainiennes font profil bas. Pour tenter d'apaiser les tensions, un accord a été signé jeudi entre les États-Unis, la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne. Les séparatistes réclament des référendums sur le rattachement de leur région à la Russie. Un vote similaire s'est tenu le mois dernier en Crimée, conduisant l'annexion de cette région par la Russie.
Au Yémen, 4 agents de sécurité ont été tués dans une série d'attaques au cours des 2 derniers jours. C'est ce qu'annoncent les officiels qui soupçonnent des islamistes d'être à l'origine de ces violences. 3 de ces meurtres ont été perpétrés à Sanaa, la capitale, par des hommes à cheval et à moto. Les attaques font suite à des frappes aériennes qui ont tué 55 militants d'Al-Qaïda dans le sud du Yémen. Au cours des dernières années, Al-Qaïda dans la péninsule arabique a multiplié les assauts contre des cibles militaires, des touristes et des diplomates au Yémen.
La Syrie annonce la tenue d'une élection présidentielle le 3 juin, une nouvelle étape qui a été immédiatement suivie d'un concert de condamnation. Lionel Gaïma.
Ahmad Jarba, de la coalition nationale de l'opposition syrienne, dit que l'annonce de ce scrutin devrait être considérée comme une farce. Londres affirme que le résultat n'aura aucune valeur ni crédibilité, alors que Washington parle de parodie de démocratie. À New York, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, déclare que Ban Ki-moon et son émissaire spécial Lakhdar Brahim ont prévenu que les élections dans les circonstances actuelles vont davantage barrer la route à toute solution politique. C'est le même son de cloche à Bruxelles. Catherine Ashton, chef de la diplomatie européenne, a déploré ce scrutin qui sera dépourvu, dit-elle, de toute crédibilité, alors que le pays reste ravagé par une guerre sanglante. Elle rappelle que toute élection devrait se tenir dans le cadre défini par le communiqué de Genève de juin 2012. Ce communiqué définissait les principes d'une transition en Syrie, mais est resté jusqu'ici lettre morte. Bachar al-Assad est arrivé au pouvoir en 2000, succédant son père Hafez al-Assad, qui avait régné d'une main de fer pendant 30 ans en Syrie. Bachar al-Assad avait remporté son second mandat en 2007 avec près de 97% de voix. Mais depuis 2011, son pays est le théâtre d'une guerre civile qui aura fait plus de 150 000 morts.
Le naufrage du ferry Sewol au large de la Corée du Sud a fait au moins 121 morts, selon un dernier bilan publié hier. L'espoir de retrouver des survivants est quasi nul, Jean-Roger Bion.
180 personnes manquent encore à l'appel, en majorité des lycéens, coincés à l'intérieur du bateau. 17 corps ont été repêchés hier mardi. Selon les autorités, le bilan définitif pourrait atteindre 300 morts. Ce serait le pire accident d'un ferry en Corée du Sud en plus de 20 ans. Le bateau transportait 476 personnes lorsqu'il a chaviré et sombré le 16 avril au large de la côte méridionale de la Corée du Sud. Il y avait à bord 352 lycéens. Le proviseur adjoint de leur lycée, qui faisait partie des rescapés, s'est suicidé vendredi. Le capitaine du ferry a été arrêté avec 6 membres de l'équipage. Il est poursuivi pour négligence et carence dans la sécurité d'autrui. On lui reproche d'avoir hésité à faire évacuer le bateau. Il a lui-même réussi à sauver sa peau en abandonnant le navire avant le drame. Les causes de cet accident ne sont pas encore clairement établies.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui et sur La Voix de l'Amérique, au micro Morgan Guiriec. Le département d'État a annoncé hier la nomination de l'ambassadeur Stuart Symington comme représentant spécial des États-Unis pour la République centrafricaine. Ce diplomate de carrière a été ambassadeur au Rwanda et à Djibouti, de même que chef de mission adjoint au Niger. Une expérience africaine qui en fait un candidat idéal pour la nouvelle mission, précise le communiqué du département d'État. Pour un éclairage sur la nomination de l'ambassadeur Symington, Timothée Donongmaï a recueilli les explications de David Brown, conseiller principal du département d'État pour la République centrafricaine.
Je crois que sa nomination revêt une importance majeure qui reflète l'importance que nous mettons sur nos relations avec Bangui. C'est un diplomate très expérimenté qui va nous aider au niveau de Washington à formuler nos politiques et renforcer nos relations avec la République centrafricaine.
À quel niveau se situe l'assistance des États-Unis à la République centrafricaine dans cette crise que traverse le pays?
Nos assistances bilatérales sont composées de trois parties. D'abord, l'aide humanitaire, qui atteint déjà un niveau de 67 millions de dollars. Ensuite, il y a l'aide à la MISCA, montant de 100 millions de dollars, et notre aide à la transition politique, qui est environ 8 millions de dollars. Et en plus, la décision du Conseil de sécurité d'adopter une dernière résolution sur l'RCA, qui mènera à la conversion de la MISCA à une opération maintien de la paix, la MINUSCA, et en plus le travail important politique, économique et social que va mener ce bureau de l'ONU, la MINUSCA, cette mission. Nos contributions à l'ONU représentent environ 28% du coût de la MINUSCA. Donc, en bref, ces totales sont considérables, reflètent l'importance nous mettant sur une résolution rapide et durable de la crise actuelle en RCA.
Jusqu'ici, les États-Unis interviennent surtout dans le cadre multilatéral, à travers des partenaires. Est-ce qu'il y aura une implication directe des États-Unis à RCA?
Oui, une implication bilatérale. Les chiffres que je viens de citer sont des chiffres bilatérales. Notre ambassade, ses effectifs américains ont quitté l'RCA en décembre 2012. Nous espérons dans un proche avenir ouvrir l'ambassade avec une présence non seulement de nos collègues centrafricains qui sont incroyablement loyaux et ont fait un travail extraordinaire durant 18 mois. Bientôt, nous aurons des diplomates américains présents sur le terrain. Et ça nous aiderait à renforcer, élargir nos relations diplomatiques avec la République centrafricaine.
Voilà, c'était David Brown, conseiller principal du département d'État pour la République centrafricaine.
Jacques Aristide, avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, une spéciale République centrafricaine. Notre collègue Bagassi Koura revient de ce pays et nous livrera ce dont il a été témoin. Comme d'habitude, vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
En République démocratique du Congo, la MONUSCO parle désormais ouvertement de son départ du pays. Aucun calendrier n'est établi, mais la présence depuis 1999 de la force onusienne a toujours fait débat. C'est dans ce contexte que les opérations de pacification se poursuivent dans l'Est contre les ADF Nalu. Nicolas Pineau a joint le représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martine Kobler.
On va essayer de le faire jusqu'à la fin de l'année. Alors, nous avons une situation très, très compliquée maintenant au combat avec les FARDC contre les ADF. C'est une groupe anti-ougandaise au nord de Nord-Kivu. On est en train de combattre avec toute persévérance. Je suis aussi impatient, mais ce sont des combats très, très forts avec beaucoup de gens qui sont morts maintenant sur le côté des FARDC, de l'armée congolaise. On sécurise avec l'armée congolaise, on sécurise les routes, on les assiste avec la logistique et avec les hélicoptères attaques aussi. On est engagé, ça dure un peu de temps.
En revanche, contre le FDLR, tout semble au point mort.
Les plans sont prêts avec l'armée congolaise pour les combats contre les FDLR. C'est quelque chose qu'on va faire conjointement avec l'armée congolaise. Il faut avoir le feu vert. Mais à l'instant, la plupart des forces congolaises sont concentrées sur le nord dans le combat contre les ADF.
Vous vous êtes exprimé récemment sur l'avenir de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Ça a suscité des réactions. Selon vous, à quelle échéance une mission onusienne au Congo quittera le pays.
Dans le nouveau mandat, on a un examen stratégique pour organiser aussi le départ de la MONUSCO. Parce que c'est très important, nous ne sommes pas ici éternellement, parce que la première responsabilité de régler les affaires du pays, c'est au gouvernement. Et il faut vraiment définir les critères qui doivent être remplis avant le départ de la MONUSCO. On ne peut pas vous dire un délai, on ne va pas laisser le pays seul. Ce qu'on essaie maintenant, de créer une stabilité et une durabilité de la situation. Pas un retour en arrière. C'est très important. Et puis, c'est le temps aussi pour la MONUSCO d'organiser son départ.
Donc, les critiques depuis des années contre la MONUSCO étaient en partie justifiées quand même.
Voilà. On était trop statique. La force a observé. Nous avons 92 positions à l'est de la force. On a cohabité avec les groupes armés quand, au mois d'août, le commandant de la force et moi sont arrivés ici. Alors nous avons déclaré la fin de la cohabitation avec les groupes armés. Ils doivent se désarmer. S'ils ne se désarment pas, on utilise la force. Alors c'est la nouvelle politique et ce n'était pas comme ça auparavant.
Martine Kobler, représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC, joint à Kinshasa. Et maintenant, les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. Je vous rappelle que leurs photos, messages et vidéos sont sur Facebook et sur le site lavoixdelamérique.com.
Théodore Kayamba, journaliste citoyen, Voix de l'Amérique à partir de Butembo. Pendant que les habitants de Butembo et ses environs attendaient avec faste les procès des kidnappeurs, ces derniers viennent d'être transférés à Goma, a fait savoir le maire de Butembo, Sikuli Uva Sakamakala Théodore, lors de la montée de la couleur nationale à la mairie de Butembo. Cette façon d'agir des autorités politico-judiciaires met en tout cas à colère la population qui s'attendait à l'audience publique qui a été plusieurs fois reportée sous prétexte que les moyens logistiques n'étaient pas réunis. Certains défenseurs des droits humains et voix avis de Butembo font déjà allusion à une main invisible qui est derrière ces transferments. Ils poursuivent en disant que l'auditorat militaire garnison de Beni Butembo a été induit en erreur parce que selon eux, ils ne comprennent plus les rôles que doit jouer l'auditorat militaire garnison de Beni Butembo. Il s'est de préciser que les Bibolais n'agirent que par la tenue de ces procès à vue de Butembo pour que ces kidnappeurs répondent de leurs actes.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
Plusieurs présidents africains ont annoncé une réduction de leur salaire compte tenu, disent-ils, des difficultés économiques de leur pays. La semaine dernière, le chef de l'État tunisien, Moncef Marzouki, a dit qu'il ne gagnerait plus qu'un tiers de son salaire, évalué à presque 20 000 dollars par mois. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a fait savoir de son côté qu'il se contentera désormais de 4 000 $ chaque mois. Et le mois dernier, le président kényan, Uhuru Kenyatta, avait annoncé une baisse de 20% de son salaire et de 10% pour celui de ses ministres. Pour une analyse de cette tendance, Timothée Donongmaï a contacté Mvemba Dizolele, chercheur à l'université Stanford et professeur à l'université Johns Hopkins.
400 000 $ par an, ça c'est le salaire du barème national aux États-Unis pour le président de la République.
400 000 qui n'est pas vraiment le plus haut salaire des États-Unis.
Ce n'est pas le plus haut salaire des États-Unis, donc le président est rémunéré comme un fonctionnaire. Il a un salaire le plus élevé pour les fonctionnaires. Mais par contre, dans nos pays africains, ce n'est pas le cas. On ne sait généralement pas les budgets de la présidence. En tout cas, la majorité des pays africains, on ne sait pas le dire. Et le salaire même du président, dans beaucoup de cas, n'est pas connu. Ce qui fait que cette initiative du Zimbabwe et de la Tunisie, effectivement, sont des symboles. À mon avis, je pense que ça ne reste que des symboles, puisque dans ces pays-là, comme nous savons, dans les gros des pays africains, on n'a plus de classe moyenne.
Au-delà de l'aspect symbolique, est-ce qu'il n'y a pas un impact concret à noter ici?
Moi, je ne pense pas. Peut-être pour la Tunisie, où il y a un nouveau président, mais pour le cas du Zimbabwe, le président Mugabe est au pouvoir depuis 1980, comme premier ministre d'abord et plus tard comme président. Donc ce symbolisme-là, c'est son salaire à lui. Et comment cela se traduit pour les petits peuples? Pour un fonctionnaire du gouvernement du Zimbabwe, qu'est-ce que ça signifie que le président prenne une baisse ou c'est pas réduit son salaire d'un certain pourcentage si le président est au pouvoir depuis plus de 30 ans et qu'il a accumulé autant de richesses? Si vous comprenez un pays comme le Zimbabwe, en pleine crise où les gens ont du mal à se nourrir, qu'est-ce que cela signifie? En réalité, pas grand-chose. Donc cela ne se traduit pas en une politique d'austérité de gestion, cela ne se traduit pas en une politique sociale.
Par où les pays africains doivent-ils commencer pour instaurer un peu plus d'équité dans ce domaine?
Moi, je suis pro-démocratie. Moi, je dirais qu'il faut commencer par rétablir la démocratie, puisque la démocratie amène à la transparence. Et c'est cette transparence et débat public qui va permettre à chaque pays d'ajuster sa politique sociale à sa réalité ou à ses réalités. Puisqu'en fait, chaque pays souffre de différents défis. Le cas de la RDC n'est pas le même à celui de l'Égypte ou celui du Kenya. Au Kenya, on a pris la même approche. En fait, il y a presque un mois, je pense, le président Kenyatta, ses conseillers et son gouvernement avaient aussi décidé de réduire leur salaire. Mais le Kenya, c'est un pays qui est plus solide ou l'économie est plus solide. Mais même dans le cas du Kenya, on voudrait que ça aille au-delà des symbolismes de réduction des salaires. Mais ce n'est pas un problème. L'écart des salaires, ce n'est pas juste un problème africain. Il est peut-être plus aigu dans les pays africains puisque les économies sont faibles.
Mvemba Dizolele, chercheur à l'université Stanford et professeur à l'université Johns Hopkins. Ici aux États-Unis, la Cour suprême décide par 6-2 que le Michigan peut continuer d'interdire la prise en compte de la race des candidats à l'admission dans les universités de l'État. Qu'est-ce à dire pour l'avenir des programmes dits d'action positive ou de discrimination positive, comme on dit en France? Michel Joseph.
L'interdiction avait été adoptée par référendum en 2006 au Michigan. Les programmes en question ont toujours aidé les minorités raciales et ethniques à s'inscrire dans les établissements d'enseignement supérieur aux États-Unis. Mais ils ont été tout aussi contestés dans le pays.
What the court held is that the voters of Michigan are allowed to decide.
Pour la professeure Susanna Sherry de Vanderbilt University, il ne s'agit vraiment pas d'une décision sur l'action positive elle-même, mais plutôt de l'affirmation du droit des électeurs du Michigan de se prononcer sur cette question ou non. La constitutionnalité de ces programmes, a-t-elle poursuivi, est plus précaire qu'il y a 30 ans. Et la professeure Sherry ne serait pas surprise si la Cour suprême venait à les annuler en cas de nouvelle saisine. La Californie et l'État de Washington ont fait comme le Michigan et quelques autres États ont adopté des lois ou pris des décrets similaires. Réagissant vivement à la décision, la juge Sonia Sotomayor a dit de ses collègues qu'ils devraient faire face aux inégalités raciales aux États-Unis plutôt que de simplement espérer leur disparition. L'ACLU, une organisation qui défend les libertés civiles, est fort critique de la décision de la Cour. Mais le Project 21, un groupe conservateur noir, trouve que cette décision rapproche les États-Unis du rêve de Martin Luther King, à savoir l'avènement d'une société aveugle aux différences raciales. Les partisans de ces programmes font remarquer que le taux d'inscription des étudiants africains-américains et hispaniques a baissé depuis le référendum.
C'est l'heure des sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Bonjour Morgane.
Ligue des champions en Europe.
Oui, Samuel Eto'o était forfait. Les Blues de Chelsea se déplaçaient en Espagne sur le terrain de l'Atlético Madrid pour la première demi-finale. Ils ont pu s'en tirer avec un match nul de 0-0 malgré la domination madrilène. Tout à l'heure, le grand choc, la finale avant l'heure, le Real de Madrid accueille le Bayern Munich.
Stéphane Bia en route pour l'Angleterre.
Oui, prêté cette saison par Queen Park Rangers au FC Séville, le Camerounais ne devrait pas rester en Andalousie malgré l'option d'achat avec les Rouji Blancas. Selon les informations de nos confrères de France Football, le joueur de 27 ans est en contact avec l'Inter Milan, Liverpool et Everton en fin de contrat en juin. L'ancien Marseillais hésite encore entre les deux clubs anglais. Il a disputé 18 matchs de Liga cette saison.
On reste en Angleterre, Manchester United n'a plus eu d'entraîneur.
Oui, après la défaite de Manchester United à Goodison Park 0-2, le manager des Red Devils, David Moyes, a été limogé 10 mois après sa prise de fonction. C'est Ryan Giggs qui assure l'intérim. La NBA maintenant, championnat de basketball nord-américain, suite des playoffs.
Atlanta, Indiana 85-101, Brooklyn, Toronto 95-100, Washington, Chicago 101-99. Le monde aujourd'hui touche à sa fin et comme toujours, on se quitte en musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. L'arrestation du célèbre chanteur et compositeur Kizito Mihigo est sur toutes les lèvres au Rwanda. Ce rescapé du génocide est accusé aux côtés de 3 autres personnes, dont un journaliste, d'avoir fomenté une attaque à la grenade au Rwanda et d'avoir eu pour objectif de renverser le gouvernement. On l'écoute ce matin dans Igiso Banuro sur Rupfu.
Urupfu ni cyo kibi kiruta ibindi. Urupfu ni cyo kibi kiruta ibindi. Ariko rutubera inzira.
Alors Kizito est accusé d'avoir fomenté une attaque, mais pour beaucoup, il est considéré comme un héros de la réconciliation au Rwanda.
Oui Morgan, et la chanson même appelle à la réconciliation au Rwanda et dans toute la région des Grands Lacs. Ses fans pensent que si la culpabilité de Kizito Mihigo est avérée, à qui désormais le peuple rwandais peut-il faire confiance?
Merci Roger.
Bonne journée Morgan.
Roger Muntou, que vous retrouvez dans le RM Show tous les soirs à 20h temps universel.
Urupfu ni wo muryango ugana Imana nyir'ubuzima, ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana. Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana. Mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana. Mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana. Chibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Ariko rutubera. genocide cyangwa intambara uwishwe n'abihorera uwasize impanuka cyangwa se uwasize indwara abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho bicaye baradusabira abo bavandimwe aho.
Ainsi s'achève Le Monde d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Albertson à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guirieco au micro. Je vous souhaite une excellente journée.